Mes chers amis, pour la suite de l'étude de l'âme humaine, je ne fais pas de sermon, mais une causerie. J'en fais une causerie parce qu'il est important de les étudier, parce que si cela se trouve dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, alors qu'il s'agit de réalités philosophiques, c'est que ces réalités philosophiques ont de l'importance pour la vie chrétienne. Je les étudie parce que les missionnaires de retour de Chine, les missionnaires qui ont exercé leur ministère sous régime communiste, lorsqu'ils se réunissent et sortent ce merveilleux livre qui est si instructif, L'étoile contre la croix, et que, encore une fois, je vous invite à lire, les missionnaires disent, si nous avons commis une erreur, nous les missionnaires, c'est de ne pas avoir fait de philosophie à nos fidèles, et particulièrement de la métaphysique. Or, on ne peut pas entrer, ou difficilement, dans la métaphysique sans avoir étudié la psychologie humaine. Pas la psychologie au sens moderne, bien entendu. La vraie constitution de l'âme humaine, avec toutes ses puissances, avec toutes ses activités. Nous arrivons au sens interne. Et oui, mes chers amis, il y a 5 sens externes, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, ça tout le monde le sait. Et puis, il y a 4 sens internes, qui n'ont pas d'organe extérieur. C'est le sens commun, l'imagination, l'estimative et la mémoire. Je trouve que le plus simple, c'est de lire saint Thomas d'Aquin. La vie d'un animal parfait requiert non seulement qu'il connaisse la réalité quand elle est présente au sens, mais encore quand elle est absente. L'animal doit donc, dans sa sensibilité, non seulement recevoir les aspects sensibles au moment où ces aspects se présentent à lui, mais encore les retenir et les conserver. Oui, cela paraît tout bête, hein. Mais s'il n'y avait que les sens externes, nous réagirions, nous connaîtrions les choses quand elles seraient sous nos yeux, et nous en perdrions la connaissance lorsqu'elles cesseraient d'être sous nos yeux. Nous garderions une connaissance intellectuelle, mais nous perdrions la connaissance sensible. C'est particulièrement vrai quand l'animal doit se déplacer pour aller chercher des choses qui lui sont nécessaires, soit pour sa vie, soit pour tenir sa place dans la création, par exemple la génération. Or, l'homme est un animal raisonnable, bien sûr, mais il a quand même des aspects animaux différents. Hein. Saint Thomas va vous expliquer que la sensibilité de l'homme est quand même différente de celle de l'animal. Et oui, notamment, nous avons des choses à chercher, mais des choses matérielles, que l'intelligence nous pousse à chercher, soit pour dominer la terre et agir sur la terre, soit même au service de la gloire de Dieu. Donc, première série de sens internes, ceux qui vont conserver ce que vous appelez la mémoire, mais nous allons voir que ce n'est pas le terme juste, mais c'est pas grave ça, on va voir après. Deuxièmement, saint Thomas nous fait remarquer que si la brebis fuit le loup, ce n'est pas seulement parce que la couleur du loup n'est pas belle, ou parce que le bruit du loup n'est pas beau, c'est parce qu'il émane du loup quelque chose de sensiblement incompatible avec la brebis. Saint Thomas donne un autre exemple. Lorsque l'oiseau amasse la paille pour faire son nid, ce n'est pas à cause du plaisir sensible qu'il éprouve, parce que même il peut ne pas y avoir de plaisir sensible, c'est quand même un effort à faire. Et puis la paille est lourde. Pour un petit oiseau de rien du tout, elle est lourde, et puis elle est difficile à recueillir, elle est peut-être difficile à couper, que sais-je. Regardez le castor qui se donne tant de mal pour couper des arbres, et puis après ça, en faire des barrages. eh bien là aussi, il y a un rayonnement, c'est comme ça qu'on peut dire, voyez, un rayonnement sensible, sensible, hein, pas intellectuel, ce sont des animaux. Bien sûr, c'est intellectuel de la part de Dieu. Dieu a donné au loup un rayonnement sensible incompatible avec celui de la brebis. Il a donné au mâle, au bélier, un rayonnement sensible compatible avec celui de la brebis. On va dire c'est une question de phéronome. Là, on retrouve les modernes, vous voyez, qui font de la chimie. Bien sûr que la mouche, lorsqu'elle est attirée, la mouche femelle, lorsqu'elle est attirée par la mouche mâle, c'est évidemment beaucoup une question de phéronome. Les phéronomes, ce sont des hormones extérieures, vous voyez. Fer à l'extérieur, onome, hormone, mais on a abrégé ça en phéronome. Depuis qu'on a découvert cela, on l'utilise beaucoup dans l'agriculture, par exemple, pour préserver les fruits d'être piqué par les insectes. On épand des effluves de phéronome mâle, ce qui fait que les femelles ne savent plus où aller. Ou de phéronome femelle, ce qui fait que les mâles ne savent plus où aller. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Ils sont complètement désemparés. Bon, enfin, les phéronomes qui sont sensibles, hein, c'est l'odorat. Enfin, ce sont les sens externes. Ça va bien pour les mouches et les papillons, parce que quand vous avez un rat, on dit que le rat est un animal très intelligent. Ben évidemment qu'il n'est pas intelligent, le rat. Mais ça veut dire qu'il est sensible à des choses très fines que la Providence a faites. Vous trompez difficilement un rat deux fois de suite. Lorsque vous lui mettez du blé empoisonné, il enlève l'écorce qui est empoisonnée pour manger la graine qui ne l'est pas. Et ça, ce n'est pas une question de phéronome et de simple chimie qui influence l'odorat. Puisque justement, le rat déjoue les pièges qu'on lui tend par l'odorat. Voilà, vous avez les bases. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire les applications. Tout d'abord, pour percevoir les qualités sensibles externes, vous avez les cinq sens externes et vous avez un sens qu'on appelle le sens commun, que je ne vous ai pas encore expliqué, et dont voici l'explication. Lorsque vous entendez la castafiore et que vous la voyez sur la scène, l'œil voit, l'oreille entend, et il faut bien qu'il y ait un sens pour faire le lien entre les deux. Ce sens s'appelle le sens commun. Et il n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est un sens, donc il a un organe. Tous les sens internes ont pour siège le cerveau. Ces sens externes plus le sens commun vont faire naître des impressions. C'est le terme exact, impression. Ces impressions vont être conservées dans l'imagination. L'imagination est le trésor, au sens de la caverne d'Ali Baba qui contient les trésors, des impressions reçues et transmises par les sens. L'imagination, on l'appelle également la fantasia, la fantaisie. C'est ce que vous appelez communément la mémoire, mais la mémoire, ce n'est pas ça. En philosophie, en bonne psychologie, ça ne me gêne pas que vous appeliez mémoire ce qui est l'imagination, mais alors du coup, vous ne saurez plus quel nom donner à la vraie mémoire. Et puis, vous avez toutes ces qualités sensibles qui ne sont pas perçues par les sens externes, qui sont perçues à travers les sens externes. C'est évident que la brebis voit le loup et que l'oiseau voit la paille, on est tout à fait d'accord. Mais qui ne sont pas perçues par les sens externes, à savoir que le caractère nuisible du loup, le caractère utile de la paille, c'est perçu par un sens interne. Je vous l'ai dit, il y a une certaine émanation, oui, un certain rayonnement, mais au sens d'émanation, mise par le Créateur dans les choses sensibles, qui les rendent conformes ou non conformes à l'utilité de l'animal ou de l'homme. Le sens qui perçoit cela s'appelle l'estimative, car elle fait une estimation. Et le sens qui conserve ces choses-là s'appellent la mémoire. Et ce qui fait que la mémoire, c'est quelque chose de spécialisé. C'est ce qui conserve les impressions qui ne sont pas directement celles des sens externes. L'imagination conserve les impressions qui viennent directement des sens externes. La couleur, c'est ce qui vous permet de chantonner un chant, vous gardez un air dans la tête, vous faites la peinture d'un paysage de mémoire, etc. Pourquoi on appelle mémoire, on lui donne ce nom-là? Parce que vous avez notamment quelque chose qui n'est pas perçu par les sens externes, mais qui est l'avant et l'après, dans le temps. Quand vous voulez classer vos souvenirs, il faut les classer selon le temps, il faut donc qu'il y ait un sens qui a conservé ces impressions de succession. Chez l'homme, les sens internes sont plus développés que chez l'animal, et ils ont même des fonctions qui n'existent pas chez l'animal. Bon, c'est logique. Le sens interne de la mouche, ça va pas très loin. Mais les sens internes des animaux, par exemple des animaux de cirque qui sont dressés, c'est uniquement grâce aux sens internes. Eh bien, l'homme va évidemment plus loin qu'un animal dressé, d'abord parce qu'il se dresse lui-même, et puis il saisit plus de choses, et puis il fait un rapprochement, il a une capacité sensible à faire des rapprochements. Il y a des expériences qui ont été faites, il est très difficile de dresser un singe. Vous mettez 10 boîtes l'une à côté de l'autre. Vous mettez une banane dans une boîte. Vous montrez au singe que vous mettez la banane dans la boîte, et puis, en cachette, vous retirez la banane de la première boîte et vous la mettez dans la deuxième boîte à côté. Alors le singe va ouvrir la première boîte et il va pas trouver la banane, puisque vous l'avez enlevée. À ce moment-là, vous lui montrez que c'est dans la deuxième. Ah, alors vous refermez la boîte et puis en cachette, vous mettez la banane dans la troisième boîte. Le singe, après ça, va ouvrir la deuxième boîte et il n'y trouve pas la banane. Vous lui montrez que c'est dans la troisième. Et ainsi de suite, la quatrième, la cinquième, la sixième, etc. Il semble, enfin d'après les expériences qui ont été faites, que le singe n'arrive pas, ou difficilement, à se rendre compte, je dis pas comprendre, parce qu'il comprend pas, il n'a pas d'intelligence, mais à se rendre compte que à la neuvième boîte, ben, il faudra ouvrir la boîte suivante. Un enfant, lui, va le comprendre très vite, même avant l'âge de raison. Vous faites jouer un singe avec des cubes et puis un enfant avec des cubes. Et les triangles, les cercles, les carrés, petits, grands, qu'il faut mettre les uns dans les autres. C'est assez éducatif pour les enfants dans le tout premier âge. Alors, les enfants se rendent compte que le triangle ne va pas dans le carré. Du coup, ils vont essayer autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans l'estimative de l'enfant, qui pour le coup s'appelle plus l'estimative, elle s'appelle la cogitative, parce qu'elle va se mettre au service de la pensée. Il y a dans les cubes un rayonnement que l'enfant saisit et que le singe ne saisit pas. Je ne parle pas de la mouche, ça tout le monde le sait. Ou même du lapin, ou que sais-je. Il y a un rayonnement que l'enfant saisit. Et l'enfant n'insiste pas pour mettre le triangle dans le carré. Il voit bien que ce n'est pas possible, c'est pas la peine d'insister, ça ne marche pas. Alors il va chercher autre chose. Bon, le rond, ça a l'air d'entrer. Non, ça n'entre pas. Finalement, ben, il va chercher dans les carrés. Et puis, quand il va grandir, vous lui donnerez des petits carrés, des grands carrés. Et puis, il va voir ceux qui entrent sans tenir, ceux qui entrent bien et s'ajustent, et ceux qui n'entrent pas, etc. Un singe, vous lui donnez un triangle, il va tout faire pour le faire entrer dans le carré, quitte à tout casser. Vous avez également la conscience de son acte. Je ne parle pas de la conscience intellectuelle réfléchie. Vous avez notamment un problème philosophique, comment l'intelligence humaine, enfin comment l'homme, un individu, par son intelligence humaine, se connaît-il soi-même? Ça vous paraît évident, ça va vous faire rire une question pareille. L'intelligence comprend les choses universelles. Chacun d'entre nous est une chose particulière. Comment notre intelligence, qui a la notion de l'homme en général, se connaît-elle, enfin connaît-elle l'individu, vous en train de penser, voire même les autres, comment votre intelligence, voyez, connaît-elle Pierre-Paul en tant qu'individu, parce qu'il y a une sensibilité qui est très développée, beaucoup plus développée évidemment que chez l'animal, et qui permet de faire le lien entre la notion universelle, générale, et la notion particulière, qui vient donc des sens, mais avec beaucoup plus de profondeur, de finesse. Voilà pourquoi l'estimative ne s'appelle pas estimative chez les hommes, elle s'appelle cogitative. Quel est l'intérêt de vous parler de tout cela? Tout d'abord, ne pas réduire la vie sensible au sens externe. Et par conséquent, deuxièmement, prendre conscience de réalités qui, sans être encore spirituelles, dépassent les objets sensibles extérieurs. Pourquoi, par exemple, le film est-il nuisible particulièrement pour un enfant? Le film, oui, un film. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, vous n'allez pas aussi condamner le cinéma. Je condamne rien du tout, j'analyse. Je regarde des carrés, des triangles, et je vois si le triangle entre dans le carré. Et je vois si le film entre dans l'esprit humain. Et si oui, s'il casse quelque chose ou non. C'est tout? Eh bien, le film déforme la réalité. Vous voyez un film sur les animaux. Vous voyez une tortue en train de pondre ses œufs. Ou vous voyez un serpent dans le désert qui est pris dans un marais desséché. Le naturaliste, pour observer, d'abord il a fallu qu'il observe jour et nuit. Vous avez certaines choses qui ne s'observent que la nuit et pas le jour. Ensuite, il faut trouver le bon moyen. Par exemple, si vous voulez observer les dauphins, il faut vous trouver un endroit où il y a des dauphins. Ça passe pas toujours à l'endroit que vous avez décidé. Ça peut prendre des jours et des jours. Quand vous êtes sous l'eau, comprenez qu'il y a un gros effort à faire. La tortue qui pond ses œufs, je sais pas combien de temps elle met à les pondre. Enfin, il faut quand même, là encore, observer pendant des heures. Tout ça, on vous le présente en 5 minutes sur un film. Il n'y a rien de tel pour déformer la sensibilité d'un enfant. C'est tout sauf des films éducatifs. Ce sont des films anti-éducatifs. En plus, le film va beaucoup trop vite pour que l'esprit, les organes, tout simplement les organes, puissent faire le tri. C'est comme si on vous mettait une lumière beaucoup trop vive, vous seriez ébloui. Un son trop fort, vous êtes assourdi. Une odeur qui sent très mauvais, vous fuyez. Et puis on vous met des images qui défilent à toute vitesse, qui sont la plupart du temps heurtées, parce que le film, ce n'est pas comme le théâtre. On coupe les séquences. L'esprit humain ne peut pas trier cela. Alors l'adulte, oui, quand il y a un peu de film et pas trop, par son intelligence, parce qu'il connaît déjà la réalité, est capable de trier, est capable de comprendre, d'en faire son profit, mais à condition qu'il n'y en ait pas trop. Le monde moderne se pique d'avoir étudié la psychologie. En réalité, il n'a pas étudié la psychologie. Il a détruit les connaissances humaines avec des prétextes psychologiques, et notamment le subconscient, mais ça c'est une autre affaire, on en parlera une autre fois. Et toutes les vraies réalités psychologiques, non seulement il ne les étudie pas, il fait très attention à ne pas les connaître pour pouvoir les bafouer, ou bien les connaître pour s'en servir contre le règne de Dieu. Par exemple, toute la publicité qui consiste à tromper l'homme en trompant la cogitative et les sens et le sens commun. Et puis, il y a l'éducation des sens internes, ou plus exactement, l'éducation de l'usage des sens internes. Il faut apprendre à un enfant à être attentif non seulement à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, mais également à ces rayonnements sensibles que la Providence a mis dans les choses. Il faut lui apprendre à dominer ses émotions, il faut lui apprendre à choisir ses émotions, par exemple pour la miséricorde. Quelqu'un qui est blessé, surtout s'il a une blessure qui sent mauvais, quelqu'un qui est malade, instinctivement, c'est l'instinct, instinctivement, cela nous repousse, c'est contraire à ce qui nous convient. Et en même temps, le bon Dieu a mis, pour nous les hommes, dans ces situations, quelque chose d'attirant à cause de la miséricorde. Il va falloir apprendre à l'enfant à être attentif au rayonnement, j'allais dire positif, de la misère, sans se laisser rebuter par le rayonnement négatif de la misère. Comme vous avez l'oiseau qui est sensible à la paille pour construire le nid, bien que le poids, la difficulté pour aller la chercher, pour la recueillir, etc., naturellement pourrait le repousser. Alors l'oiseau a un instinct, donc il ne domine rien. Mais justement, nous les hommes, nous pouvons dominer nos sensations. Et ça, c'est tout le domaine de la passion sensible. Et c'est par conséquent tout le domaine des deux vertus qui gouvernent les passions, à savoir la force et la tempérance. Bon, je voudrais pas prolonger trop cette causerie, mais je vous parlais tout à l'heure des phéromones. Vous avez également des endorphines, c'est-à-dire des sécrétions internes qui vont être la cause du plaisir sensible ou de la douleur. La question de la chasteté, par exemple. Quelqu'un qui ne vit pas dans la chasteté produit des endorphines qui sont un peu comme une drogue, hein. Endorphine, morphine. La morphine vient de l'extérieur, l'endorphine est produite par le corps. Il s'habitue à cette drogue, la sensibilité trouve un plaisir exagéré dans l'impureté, et il va y avoir un redressement sensible à faire, malgré toute la bonne volonté, un redressement qui va être très difficile. Et voilà pourquoi les complices du démon savent très bien ce qu'ils font avec les femmes mal habillées, avec les hommes mal habillés aussi, il faut le dire. Un musulman converti, là, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, m'a dit les bons aspects de l'éducation qu'il avait reçus, et notamment une fois où il sortait, je crois, avec un pyjama moulant, ou une tenue de sport moulante, une espèce de jogging. Son père lui a dit « Je t'interdis de te montrer devant ta mère avec des vêtements moulants. » Eh bien ça, c'est déjà le début d'une éducation de la sensibilité, et qui mène à une éducation de la vertu. Alors vous voyez, mes chers amis, c'est très intéressant, je ne pouvais pas en faire un sermon, parce que c'est difficile de monter, d'écouter cela lors de la messe, et puis de monter à Dieu, et de tirer les leçons qui conviennent. Malgré tout, je crois que c'est quand même très intéressant, si ce n'est dans un sermon, au moins dans une conférence spirituelle. Alors je vous invite à en profiter, et puis je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.